Radio Libertaire, petit réglage, voilà, ça y est, c'est parti. Donc, vous êtes sur Radio Libertaire, bah oui, il fallait un peu régler les machines hein, ce matin. Donc, dans le studio de Radio Libertaire, je vous rappelle que c'est le 89.4, hein, puis que vous êtes, enfin, le 89.4, c'est l'ensemble de l'Île-de-France. Donc, vous pouvez aussi écouter Radio Libertaire sur Internet. Internet, donc, comme on dit, hein, sur l'ensemble de la planète. Et puis, c'est la première émission de la matinée. Alors, je ne sais pas s'il y a eu, vous avez pu entendre avant 10h quelques morceaux de musique, quelques chansons ou pas. Mais en tout cas, je voulais vous signaler que vous n'étiez pas sur France Inter, hein, puisque France Inter, vous le savez peut-être, France Inter est en arrêt d'émission. Et France Inter programme donc de la musique ou des chansons en continu sur l'antenne de France Inter. Hein. Donc c'est pour ça pas penser que si vous mettiez donc une partie de la nuit sur le 89.4, vous dites en écoutant s'il n'y a pas d'émission, ce n'est pas Radio Libertaire qui est en grève. Alors, vous le savez peut-être, si vous êtes, comme on dit, fidèle ou infidèle auditeur de Chronique Hebdo, hein, Chronique Hebdo qui existe depuis des lustres et des lustres, alors le nombre de lustres ou de l'ombre de lumière ou le nombre d'années, de commentaires, vous savez que c'est une émission de commentaires de l'actualité, d'un point de vue le plus anarchiste possible, enfin on essaie, chacun donc peut apprécier ou pas, ou critiquer ou pas, ou revendiquer ou pas. Donc, en tout cas, en essayant déjà une différence quand même, comme certains emploient le mot rupture, vous le savez, hein, la rupture à l'écoute, je pense que vous l'entendez immédiatement par rapport à l'ensemble de tous les médias, comme on dit, qui distillent, qui nous donne en boucle, en continu, le même discours, le même glouglou, la même vulgate, vous le savez, donc du capitalisme, puisque si vous êtes des fidèles auditeurs de cette émission, il y a quelques semaines, enfin il y a juste 15 jours, la possibilité, on avait invité dans cette émission donc Pierre-Carl et Julien Brigaud pour présenter leur dernière œuvre concernant DSK Hollande, etc. Et évidemment, on avait évoqué les médias, hein, les médias qui mentent, les médias de la propagande, et on avait évoqué évidemment la conspiration, en tout cas en ce qui concerne tous ces médias qui ne distillent que le catéchisme, comme on dit. Alors soit c'est le catéchisme du capitalisme, hein, puisque dans ce film que vous pouvez, je vous le signale, hein, en tout cas vous pouvez le voir sur internet gratuitement. Donc, dedans, il y a un commentaire d'un sociologue qui s'appelle Alain Cardo et qui nous dit tout simplement que le système médiatique est un sous-système du système capitaliste, hein, le système capitaliste évidemment qui fleurit, qui s'est épandu. Sur l'ensemble de la planète. Alors on verra ça peut-être ce matin, hein, puisque c'est bientôt c'est le grand Raoult de Davos, hein, et là je crois qu'un personnage qui s'appelle Schwab, qui est le fondateur de ce festival de l'ignominie de Davos, hein, dans l'ensemble des entreprises capitalistes, apparemment nous dit que le capitalisme est en plein essor et qu'il faudrait changer la terminologie, son appellation, en parlant d'entrepreneuriat. Hein, voilà le mot lâché. Alors je sais pas comment ça se dit en suisse allemand, mais en tout cas la traduction était entrepreneuriat. Et si vous étiez à l'écoute juste un petit peu avant 10h de Radio Libertaire, elle a passé une chanson de Jacques Dutronc qui s'appelle Merde in France. Merde in France, et ça fait référence, vous le savez peut-être en écoutant cette émission, au MEDEF. MEDEF, c'est l'actualité aujourd'hui, 10 janvier, avec les partenaires, comme ils disent, sociaux. Donc le MERDEF, nous on l'appelle comme ça, MERDEF, Merde in France. Et la nouvelle appellation, vous savez, c'est le anciennement c'était le CNPF du patronat français, comme on dit, et là ça veut dire entreprise, entrepreneuriat, entreprise de France. Donc ils entreprennent beaucoup de choses, puisque là aussi les quelques lignes que j'ai pu voir pour, en ce qui concerne ce grand raout de Davos annoncé, eh bien, c'est l'imploration à la croissance, la croissance absolument partout, et donc le développement est exponentiel par le capitalisme. Alors évidemment, chasser tout ça, puisque le capitalisme financier ou le capitalisme, certains disent industriel, ou la forme même du capitalisme dans son idéologie, eh bien là, ce serait remplacé par entrepreneuriat. Alors, ce matin, donc, je vous le disais, commentaire de l'actualité. Alors, ça vous a peut-être pas échappé. Donc, dans les présentations, vous le savez, habituellement, nous sommes trois dans l'équipe des chroniqueurs, chroniqueurs, chroniqueuses de Chronique Hebdo. Et la semaine dernière, Jacques était donc à l'animation, à la réalisation, à la technique, et alors un petit relais, puisqu'il est parti rejoindre Josie, qui co-anime aussi cette émission depuis plusieurs années. Et dans le Vaucluse, je vous dirai tout par rapport à ça, le sud de la France. Alors c'est peut-être une zone libre, là aussi ils ont pris un petit peu de temps, un petit peu de repos, dans une zone un peu encore libre, enfin encore libre occupée, puisqu'on dit évidemment que le système capitaliste occupe l'ensemble de la planète. Donc s'ils sont à l'écoute, je les salue et j'essaierai en tout cas aujourd'hui, comme on dit, à la réalisation, à l'animation, à la technique, donc cette nouvelle émission de Chronique Hebdo. Alors c'est le 10 janvier, oui c'est le 10 janvier, parce que je vous disais c'est quand même important, puisque c'est une réunion de dupes, c'est une réunion où tous les dés sont pipés, joués d'avance, enfin la flex sécurité, c'est-à-dire sur le travail, le travail encore une fois avec des représentants de ce gouvernement. De ce gouvernement, vous le savez, des représentants des syndicats, et puis le MEDEF, donc les représentants de ce qu'est le MERDEF, en partenaire, tous ensemble, évidemment, tous ensemble, mais simplement en oubliant que les dés sont pipés, puisque le revenir juste là-dessus, vous le savez bien, pour être partenaire, tout du moins dans un contrat, il faut au moins que les partenaires soient égalités. Évidemment, ce qui définit le contrat de travail, c'est l'inégalité foncière, c'est-à-dire c'est à prendre ou à laisser, puisque le contrat de travail est un contrat qui porte, évidemment, c'est déjà une escroquerie, un contrat, si on peut employer ce terme, léonin, entre l'exploiteur et l'exploité. Et l'exploité, évidemment, doit en continu fermer sa gueule, puisque vous le savez, évidemment, aux portes de l'entreprise, aux portes de l'atelier, à partir du moment où on passe sous les fourches caudines du travail salarié, on doit évidemment fermer sa gueule. Il n'y a plus de démocratie, puisque la démocratie n'existe pas, même ce mot il l'emploie, vous le savez bien, c'est un mot de Curton, de Curton républicain, employé en permanence, de parler de démocratie, ou dire ça doit être un peu plus démocratique. Alors, en tout cas, la flex sécurité, on sait ce que c'est, c'est se coucher, évidemment, le plus possible devant le patronat, cette entreprise, ces entreprises évidemment de ou du CAC 40 comme on dit ici, ou l'ensemble des entreprises capitalistes, ou évidemment ceux qui travaillent, hein, puisqu'il y en a quand même qui ne peuvent pas travailler, et c'est surtout qui n'ont, comme on dit souvent, pas de revenus, hein, ou très peu d'allocations, puisque les chiffres quand même sont colossaux, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe, les États-Unis, enfin les quantités de pays, puisqu'on verra ça ce matin, la guerre économique, évidemment, qui sévit sur l'ensemble de la planète, avec les prédictions, hein, d'un conseil, alors là c'est un conseil œcuménique états-unien, économique, hein, sur des prédictions pour les années 2030. Alors on verra, évidemment, ça fait une marge, ça fait une vingtaine d'années, mais on verra aussi ce matin la correspondance, hein, avec un discours d'un personnage qui s'appelle Monsieur Hérault, pour ne pas le nommer, et on verra que dans son discours, là aussi d'investiture, enfin en tout cas pour l'année 2013, eh bien il nous a parlé des années 2030, hein, des années flamboyantes 2030, évidemment faut voir le plus loin possible, hein, puisqu'on peut rien faire dans le court terme, dans l'immédiat, donc en 2030 on rasera gratis et ça sera formidable. Donc on verra ça ce matin, puisque c'est un peu passé. C'est vrai que se payer le discours du sombrero, on peut pas l'éviter. Eh bien, il faut essayer de le faire, mais il faut essayer de voir évidemment l'ensemble des conneries qui peuvent être développées dans ce discours. Quand on parle dans ce discours, Monsieur Hérault, du nouveau modèle français, un nouveau modèle français, voilà, puisque tout est en termes économiques, tout est en termes d'entreprise, d'entreprendre, hein, puisque la planète est transformée en véritable chantier, hein, un camp de travail, on verra ça ce matin, hein, par rapport à la Chine, oui, aussi peut-être aussi comme ça par rapport à certains pays ou provinces de Russie. Donc on comparera justement ces sombres prévisions, ces sombres prédictions, et pour les années qui viennent, en tout cas pour le système capitaliste. Alors, ça sera un des sujets. Donc deuxième sujet, c'est d'actualité. Alors ça vient de sortir, comme on dit dans le journal Le Monde, hein, le journal de référence, la Pravda du capitalisme, comme on l'appelle ici, et qui a augmenté ses prix, hein, parce qu'ils augmentent tous leurs prix. Donc la presse est en difficulté, ils sont en difficulté, ils l'ont privatisé, ils n'ont plus de rentrée publicitaire, donc il y a une flambée des prix des quotidiens. Alors les quotidiens, apparemment, bon, certains prédisent aussi, encore une fois, pour les États-Unis, hein, celui qui est derrière l'ensemble, comme on dit, on verra ça aussi dans cette analyse, je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce conseil œcuménique du capitalisme, hein, comment les États-Unis tirent les ficelles un petit peu partout, de façon économique, mais surtout, vous le savez, de façon encore pour le moment militaire, et puis aussi, ce qui se voit moins, la main invisible du marché culturel, ce qui est la main invisible et qui se voit quand même beaucoup, sur le plan, comme on appelle ça, entre guillemets, donc idéologique et culturel. Alors, pour ce qui concerne le monde, eh bien, le nucléaire, hein, je vous le disais, ça sera le deuxième sujet, on l'abordera, le deuxième sujet, parce qu'il y a des trucs qui ont été totalement escamotés, vous savez, bon, c'est la combine, hein, de ne parler que des faits divers, comme on le répète souvent, qui font diversion, et les sujets, évidemment, qui concernent chacun d'entre nous, et qui sont très importants, eh bien, de les escamoter. Alors, en tout cas, le nucléaire, Le Monde titre la France dans le piège de l'Eldorado chinois, hein, puisque par rapport aux technologies de pointe, particulièrement, vous le savez, avancées de la technologie nucléaire française, hein, rappelons aux éditeurs, enfin vous le savez sûrement, qu'on est un des pays, sinon le premier pays le plus nucléarisé, hein, de la planète, en tout cas pour ce qui concerne la superficie du territoire. Là encore, et le Japon, hein, le Japon qui était aussi avec 52 réacteurs, il y a une cinquantaine d'arrêtés, hein, et donc on parlera de nucléaire au travers évidemment de la catastrophe, vous le savez, de Fukushima, hein, comme on aurait dit peut-être certains auteurs, écrivains, Fukushima mon amour, hein, par comparaison avec Marguerite Duras pour Hiroshima mon amour. Là aussi, j'avais envie de dire Tchernobyl, monde débile, et puis EPR, hein, EPR, monde de gangsters. Là, c'est les EPR, c'est les nouveaux, la quatrième ou la cinquième génération, évidemment, où la France est particulièrement en avant, hein, comme on dit, en avant dans le précipice. De montrer que cette technologie, il y a une petite bagarre. Alors, il y a un changement à la tête du nucléaire français en ce moment. Il y a des bagarres et par rapport à Areva. Et puis aussi par rapport à EDF avec Henri Proglio. Donc, comment faire que les Chinois utilisent la technologie et prennent toute la technologie pour développer le nucléaire. Alors, on parlera de ce thème, hein, de ce thème-là. Et puis, il y aura autour, vous savez, quelques informations. Parce que d'aller... qui sont quelquefois des petites informations, mais qui sont pas repérées ou pas développées parce que ça sert pas, ça n'intéresse pas. Vous le savez, les grands médias et peut-être qui peuvent être révélatrices, comme on en parlera peut-être pour la symbolique, en tout cas de l'hôtel, d'un hôtel de justice, comme on dit, un palais de justice plutôt à Nantes. Un palais de justice à Nantes qui vient de se transformer en hôtel de luxe. Hein. Donc, vous savez, Nantes, bon, je parlais tout à l'heure du Sombrero, évidemment, à quelques kilomètres au nord de Nantes, eh bien, Notre-Dame, vous le savez, des luttes, hein, Notre-Dame-des-Landes. Là encore, un peu autour, les médias n'ont pas beaucoup parlé. Hein. Il y a eu le week-end dernier, donc... des grands rassemblements, hein. Au-delà des rassemblements festifs, c'était des manifestations, justement, pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes à ce combat, très déterminant entre le monde tel qu'ils veulent le faire, c'est-à-dire ce monde capitaliste, évidemment, c'est une forme de symbolique, le combat là-bas, avec un autre système où la prise, la parole des individus, le développement aussi, s'il faut parler de développement, l'espèce de croissance remise de côté, c'est-à-dire plutôt la croissance des relations humaines, des rapports humains, des rapports sociaux, autrement que le développement de la marchandise. Alors, là, oui, c'est une symbolique, hein, puisque cet hôtel de... palais de justice est transformé en hôtel de luxe. Et là encore, avec des prix totalement exorbitants, en fait, de chambres, le prix des chambres, autour de 300-400 euros, montre bien, atteste bien, au-delà de la symbolique, hein, ce que c'est que la justice bourgeoise. Là, on pourrait faire le rapprochement de savoir s'ils ont l'intention aussi de transformer les prisons, hein, là aussi, alors les supprimer. Évidemment, nous sommes pour la suppression de l'ensemble des prisons, puisque c'est un système de contrôle, de stigmatisation d'une partie de la population. Vous le savez bien, puisque le modèle états-unien, quand on parle par rapport à la France, où le taux d'incarcération, là, on pourrait évoquer qu'il est de 1 pour 1000, hein, de la population, un peu plus de 60 000 prisonniers, hein, pour dire politiques, dans ce pays. Et pour les États-Unis, eh bien, là, on trouve des chiffres vertigineux, puisque là, c'est plus 1 pour 1000, mais 1%, on parle, vous savez, c'est à peu près rappelé quelques chiffres, hein, 330 millions. La population des États-Unis a plus de 3 millions de gens qui sont incarcérés, là, encore une fois, dans une des plus grandes démocraties du monde, hein, puisque c'est pas le tout de se moquer de la Russie en parlant de démocratie. Il faut quand même aller voir dans les pays dits démocratiques, qu'on appelle démocratie, que ce soit l'Inde, un grand pays démocratique, vous le savez bien, avec tout ce qui est dernièrement, toutes ces affaires, hein, par rapport au patriarcat et les manifestations importantes des femmes par rapport à la violence qui existe dans cette société. Là encore aussi, à tordre le cou aux stéréotypes hein, de la douceur de vivre. Mais les États-Unis, donc, c'est quand même le modèle numéro un. Donc, pour ce qui concerne l'incarcération, la violence, et puis, comme on dit, l'étonnement toujours, ce monde en paix, ce monde en guerre permanente, hein, puisque les États-Unis sont depuis... soi-disant la fin, vous savez, là encore une fois pour l'histoire officielle de la Deuxième Guerre mondiale, en guerre permanente hein, avec de nombreux pays. Voilà, donc commencez un petit peu et puis vous quelques annonces, et bien vous aurez des annonces en ce qui concerne l'activité des libertaires, l'activité des anarchistes et certaines petites annonces les concernant. Je vous rappelle, alors, faire quelques réglages aussi un petit peu techniques, hein, que vous êtes sur ces radios libertaires, hein, le 89.4, et que c'est l'émission Chronique Hebdo, le numéro du studio, le 01 43 71 89 40.
Hey, la fauchonne conne du moulout, lavabo, trottoir, moulout, merde in France.
Tête à boue, tête à boue.
Hey, la fauchonne conne du moulout,
tête à boue, tête à boue.
Is a booker, is a na, is a trip, a booker, merde in France.
Tête à boue, tête à boue.
Hey, watching you, ta fraout, les roubloutes, canapé, bidet, et à coudre, merde in France.
Tête à boue, tête à boue.
Hey, watching you, ta fraout, les
tête à boue, tête à boue.
Watch me again, même triple again, merde in France.
Tête à boum, tête à boum.
Hey, la fauchonne conne du moulou, lavabo, trottoir, où le dit merde in France.
Tête à boum.
La fauchonne conne du
tête à
boue, is a booker, is a na, is a tape, a booker, na, merde in France.
Tête à boue,
tête à boue. Et Gaspard, ouais, pire soc inclus, baby slip, dortoir, Limouges, merde in France.
Tête à boue, tête à boue.
Et Gaspard, ouais, pire soc inclus,
tête à boue, tête à boue.
Au Mickey, au Pomon, Lampadaire et Paillasson, merde in France.
Tête à boue, tête à boue.
He's a booker, he's a nah, he's a triple booker, nah, merde in France.
Tête à boue, tête à boue.
Cigare.
Hey, you speak by town, baby, bye bye. Baby, sleep, dortoir, limaille, merde in France.
Tête à boue, tête à boue.
Hey, masque à gaz, ciao, bye bye.
Tête à boue, tête à boue.
He's a booker, he's a nah, he's a triple booker, nah, merde in France.
Tête à boue, tête à boue.
Allô.
Tête à boum, tête à boum.
La fauchonne comme tu.
Tête à boum, tête à boum.
La fauchonne comme tu.
Tête à boum, tête à boum.
La fauchonne comme tu.
Tête à boum, tête à boum.
La fauchonne comme tu.
Tête à boum, tête à boum.
Is a booker, is a na, is a triple booker na. Tête à boum.
Radio Libertaire, ben voilà, hein, c'était après Dixieland, hein, formidable, hein, petit musicien, donc pour essayer de nous remettre d'aplomb, certains, non, pour nous stimuler un petit peu, et puis ben, on a repassé hein, là, le Made in France Cacapoum de Jacques Dutronc, et je vous parlais tout à l'heure de ce modèle français, nouveau modèle français du sombrero, hein, du premier sinistre. Là, ils sont plus sinistres les uns que les autres. Et alors, là aussi, simplement, c'est pas pour vraiment faire s'amuser, mais un petit peu, souvenons-nous un film, je pense, mais peut-être les auditeurs s'ils le connaissent, hein. Je crois que c'était un film de Georges Clouzot qui s'appelait Miquette et sa mère, qui s'appelle toujours Miquette et sa mère, des années 50. Et il y avait une séquence mémorable où il y avait un mec qui rentrait, donc à l'époque, les marchands de chapeaux, ça fonctionnait. Et il rentrait pour s'acheter un vrai béret français. Et donc, je pense que le vrai modèle, le nouveau modèle français, ça ressemble étrangement au vrai béret français, hein. Bon, on va le voir tout à l'heure. Alors, je vous parlais du nucléaire, hein. J'avais dit Fukushima, mon amour, hein, pour paraphraser un peu le titre de la bande dessinée de Chantal Montellier. Je vous la conseille, hein, toujours, vous pouvez, Tchernobyl, mon amour. Toujours d'actualité, hein, puisqu'on parle pas de Tchernobyl, hein, par rapport à tout ce qui peut se passer là-bas. Parce que maintenant, on fait des excursions, autres que excursions nucléaires, mais des excursions touristiques. On peut y aller, puisque c'est éclairé même la nuit. Alors, mais plus que ça, tout un tas de gens font du tourisme. Enfin bon, on regarde un peu les effets après Tchernobyl. Rappelez quand même la belle année, hein, puisque c'était 1986, hein, Tchernobyl. 1986, alors là aussi, ça pètera, hein, ça a pété, ça a continué, et puis ça va arriver. Hein, bon, ceux qui ont le plus de centrales, le plus de réacteurs, eh bien, c'est quand même les premières places. Donc, dans les premières places, vous le savez, il y a la France, hein, puisque quand même, l'Allemagne y renonce. Hein, l'Allemagne essaie de démanteler, parce que c'est pas le tout. Après, pour arrêter le nucléaire, il faut savoir démanteler. Et le démantèlement, ils savent pas tellement hein, le faire, puisque pour ici, pour la France, ils savent pas le faire, puisqu'il y a une centrale dans les Monts d'Arrée qui s'appelle Brennilis. Hein, ça fait plusieurs dizaines d'années. Et apparemment, le démantèlement, ils n'y arrivent pas. Ils ont déplacé des matériaux nucléaires, ils ont déplacé les anciennes cuves, enfin tout leur matériel radioactif et apparemment donc les conditions de sécurité sont pas remplies et c'est un petit peu au point mort, hein, c'est le moment de le dire. Donc c'est peut-être pour ça, pour Fessenheim, que c'est reporté, vous le savez, hein, ça devait être, c'était dans le programme évidemment de les programmes des menteurs. Ils sont là pour ça, hein. Donc il fallait donner un petit coup à droite, un petit coup à gauche, au milieu, au centre, aux écolos, enfin pour essayer d'appâter le poisson, c'est-à-dire l'électeur qui va mordre à l'hameçon et puis qui sera cocu, hein, puisque quand même on a là une belle démonstration, hein, puisque l'électeur, c'est la, comme je dis souvent, c'est la mémoire du poisson rouge, 5 secondes, hein, il rejoue à chaque fois, c'est comme le loto, enfin bon, il gagne pas, et là, pour tous ceux qui ont été votés, hein, la dernière fois, donc voyez ça quand même, DSK Hollande, on en a parlé, etc., hein, sur ces préparatifs du crime qui allait être commis, et donc le résultat on le sait. Alors donc là-dessus, bah, Fessenheim, oui, on ne sait pas tellement démantelé, on sait peut-être, ça va être reporté d'ici 5 ans, hein, la prochaine, enfin bon, peut-être comme M. Hérault nous a dit, dans 20 ans, hein, 2030. Alors en tout cas, pour ce qui se passe ici, on va en parler. Et en faisant un petit détour par le Japon, alors le Japon, les manifestations, ben là, au Japon, alors apparemment c'est le, là aussi les électeurs donc ont pas de mémoire, ils ont refourgué ceux qui étaient responsables, enfin en tout cas, puisque c'est les mêmes, hein, apparemment, le gouvernement, ils ont revoté pour le gouvernement qui les avait foutus dans l'histoire de Fukushima. Mais une partie importante de la population, hein, apparemment 70%, est absolument en désaccord avec le programme nucléaire, et tout du moins pour un arrêt définitif, hein, du nucléaire. Là aussi, il faut faire très attention, puisque l'intoxication pour le Japon, des campagnes institutionnelles à la télé, hein, carrément, les campagnes institutionnelles à la télé, ici c'est pareil, hein, vous savez, bon, ici c'est pareil, mais ils ne l'appellent pas comme ça. Alors là-bas aussi, quelque chose qui est escamoté, parce qu'il n'y a pas d'image, hein, puisque finalement, on l'a dit, les images de la propagande, c'est la télé officielle, hein, c'est la télé du capitalisme. Donc, ils montrent ce qu'ils veulent, et tout ce qui pourrait être autre, comme on l'a dit, avoir un intérêt pour les gens, hein, et pas les manipuler, eh bien évidemment, c'est escamoté. Alors, au Japon, il y a la manifestation, il y a une manifestation tous les vendredis. Donc tous les vendredis, le défilé devant le Parlement et la résidence du Premier ministre. Alors on parle, certains évidemment les menteurs, hein, comme d'habitude, parlent de 7000 ou 10 000 personnes, et alors qu'il y aurait à chaque vendredi autour de 100 000 personnes. Et pour essayer de se faire un point de vue, eh bien faut aller sur Twitter, hein, ou sur les réseaux sociaux, pour essayer de capter quelques images. Alors, on voit là-bas des gens qui viennent jeunes, des vieux, des on nous dit, là, puisque je fais référence à un petit article qui a été écrit par un plasticien, donc qui vit au Japon, hein, c'est mieux qu'un, peut-être un journaliste, parce qu'il est, il va peut-être raconter des choses qu'il a vues. Et donc le prix Nobel de littérature qui s'appelle Kenzaburo Oe, donc vous recommande comme ça, hein, si allez lire un petit peu de ses ouvrages, qui est un poète aussi, donc qui est là à manifester, hein, un musicien, enfin bon, beaucoup de gens conscients, hein, comme on dit, il y a les conscients qui manifestent et puis les inconscients qui restent chez eux, c'est souvent comme ça. Alors, cette manifestation, alors, est très, très importante par rapport au Japon. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a la désinformation sur l'ensemble des médias. Et aussi, alors, peut-être vous avez vu aussi, on a permis à certaines familles de retourner à certaines personnes de retourner à Fukushima, hein, dans leur maison qui avait été abandonnée. Là aussi, donc, la catastrophe, hein, par rapport à peut-être 100 000 personnes qui ont été déplacées, sans parler évidemment de tous les animaux qui sont crevés là-bas et qui continueront, hein, par rapport au nucléaire qui fait son travail, puisque ça ne se voit pas et ça dure des dizaines d'années. Donc ils sont revenus chez eux, certains évidemment n'avaient pas la possibilité de mettre le chauffage quelques heures, mais on leur a dit vous inquiétez pas, hein, vous pourrez revenir dans 80 ans. Et c'est pas une blague, c'est ce qu'on leur a dit. Dans 80 ans, on pense qu'une bonne partie de la radioactivité n'existera plus et vous pourrez retourner chez vous. Voilà un petit peu le sérieux, comme on dit, des officiels dans n'importe quelle société, hein, que ce soit évidemment, puisque l'ensemble des gouvernements sont là pour mentir. Je vous signale à cet effet donc un auteur anarchiste qui s'appelle Spooner et qui parlait du gouvernement gangster. Alors évidemment, gouvernement gangster, c'est un pléonasme, mais allez revoir ce qu'il disait, en particulier sur le gouvernement états-unien. Donc la situation, en tout cas, c'est ce qui se passe à Fukushima. Donc le Japon, une partie est très consciente, hein, de ça. Donc il faut pas de la population, évidemment, il faut pas faire trop d'informations, il faut pas faire, vous le savez, montrer justement les gens qui sont en désaccord, hein, mais au contraire laisser entendre. Et là, on le sait aussi que ceux qui s'étaient tirés, hein, c'est-à-dire, vous savez, il y avait énormément de techniciens d'Areva qui avaient foutu le camp après la catastrophe de Fukushima, hein, bravo, courage, fuyons en tout cas. Et donc apparemment ça serait un petit peu moins dangereux, donc de les fines équipes qui avaient fui à l'époque, françaises, hein, qui étaient là-bas évidemment, vous savez, pour la technologie, puisque le secret du Japon, en tout cas pour le nucléaire et pour les combustibles, c'est du modèle français, hein. Je disais tout à l'heure le vrai modèle français à la Monsieur Hérault, et donc c'est du MOX, hein. Là aussi c'est du MOX. Alors c'est du MOX, quand on dit ça aux gens, ben évidemment oxyde, ils savent pas trop ce que c'est, et vous savez sûrement que c'est un mélange. Hein, c'est un mélange d'uranium et puis une partie relativement importante de plutonium. Hein. Alors on sait évidemment les dégâts par rapport au plutonium. Là, c'est multiplié par 100 000 par rapport à la radioactivité de l'uranium. Donc la dangerosité. Alors il faut rappeler aussi, et ça c'était un article du Canard Enchaîné il y a quelques semaines, hein, de Jean-Luc Porquet. Vous savez que Jean-Luc Porquet était venu dans cette émission, hein, Chronique Hebdo, on avait justement abordé ces thèmes avec lui. Et il rappelle, enfin, il informe, hein, je dirais que le Canard Enchaîné, vous le savez, c'est quand même un journal d'investigation, d'information, hein, puisqu'ils disent que c'est un journal satirique qui paraît le mercredi, avec quand même un nombre d'exemplaires assez conséquent. On parle autour de 500 000 exemplaires, hein, quand ils font pas 500 000 numéros, quand ils font des gros coups, comme on dit, pas jusqu'à 1 million, mais sans faire dans le sensationnel, ça fait quand même pas mal de gens qui s'informent, qui essaient de s'informer. Par une partie, hein, donc par le Canard Enchaîné. Alors le Canard Enchaîné, Jean-Luc Porquet, en général, suit assez bien, même très bien. Il y avait eu un hors-série du Canard Enchaîné sur le nucléaire. Et là, il rappelle quand même quelque chose, bon, qui était complètement escamoté. Alors voilà, l'ACRO, c'est l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest de la France, puisque c'est une association qui se bagarre évidemment contre le lobby du nucléaire. Le mois dernier, hein, c'était le mois dernier, donc ça devait être au mois de novembre, l'un des deux organismes chargés de la sûreté du nucléaire en France, l'IRSN, alors c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire a mis discrètement en ligne en anglais et sur un site spécialisé, bon, personne n'a vu ça évidemment, mais une étude passée du coup, il dit, largement inaperçue, sur ce que coûterait une catastrophe nucléaire majeure en France. Alors, les experts de cet institut ont imaginé un accident un peu moins grave que Fukushima. Alors, je vais vous dire tout de suite, rassurons-nous, un peu moins grave parce que là, c'est la fusion seulement d'un seul réacteur contre, vous le savez, 3 à Fukushima. Alors, la fusion, donc, ils ont mis ça en ligne, hein, donc le modèle français, comme ça, chez Sobrero, associé à des rejets massifs, entraînant, alors donc si ça se passait en France, ça entraînerait l'évacuation de 100 000 personnes, je vous avais dit 100 000, contre 160 000 à Fukushima. Alors Jean-Luc Porquet nous dit, devinette, même en tenant pas compte des conséquences sur les autres pays européens, hein, parce que c'est vrai que les autres pays européens, on n'en parle pas. Alors, sauf que je vous parlais tout à l'heure l'Allemagne qui aurait arrêté, la Suisse, arrêt aussi, ou tout du moins pas de projet, l'Italie et la Belgique, ça discute ferme, puisque l'ancien de mec qui était à la sûreté nucléaire a dit que les cuves là-bas c'était dangereux, donc il y a 2 centrales nucléaires en Belgique qui vont pas très bien, mais comme ils ont un besoin absolu d'électricité, apparemment, la pression va être telle au niveau des autorités, comme on dit, qu'ils vont continuer donc avec ces centrales trouées. Donc c'est intéressant parce qu'on l'a déjà dit dans cette émission, le nucléaire c'est pas le tout quand un pays abandonne. On dit en général le nucléaire il est généreux, il y en a pour tout le monde, hein. Pour tous les autres pays. Donc si ça pète en France, les autres, même l'Allemagne aura beau avoir arrêté, elle en prendra aussi plein la gueule. Alors là aussi, les conséquences de ce supposition, donc cette hypothèse d'accident, hein, rejet radioactif massif, alors sur l'Hexagone, et le coût, parce qu'il faut parler évidemment, puisque vous savez que c'est le coût économique, il n'y a que ça de vrai, hein, c'est combien ça coûte, hein, c'est combien c'est de fric, combien ça rapporte. Et le restant, le coût humain, le coût social, bon, le coût écologique, on s'en tape complètement. C'est au contraire, on peut en faire du pognon. Mais le coût alors réel de la catastrophe. Alors là, voilà ce qui a été mis en ligne, hein, et par eux, hein, donc par l'organisme. Là, c'est sérieux, c'est sous garantie du gouvernement. Eh bien, 430 milliards d'euros. Alors Jean-Luc Porquet nous dit, c'est plus que le budget de l'État. C'est suffisant pour mettre un pays à genoux. Heureusement, il nous dit Areva pour avant l'État. Alors là, il dit aussi, parce qu'ils ont mis au point une sorte de machine tracteur, là aussi, je ne sais pas, sans chauffeur, et puis une espèce d'hélicoptère sans pilote, donc une sorte de drone, pour aller observer la contamination des zones évidemment irradiées, hein, pour pas que évidemment il y a un mec d'Areva qui conduise l'hélicoptère ou qui conduise le tracteur qui soit irradié, puisque la population l'a été déjà, et puis elle est partie, hein, 100 000 ont été évacués. Alors voilà le coup. Et donc là c'est un réacteur en fusion pour ce montant de 430 milliards d'euros. Et alors, ça aussi, c'est une information quand même assez importante, très importante, qui concerne évidemment chacun d'entre nous pour le nouveau modèle, le vrai modèle, le béret français de M. Hérault, eh bien, dans 20 ans. Et donc, je tenais quand même à rappeler ça, hein, pour ce qui est de nucléaire extrêmement dangereux, et là encore, on escamote, hein, comme on dit, on en parle un petit peu, au moment de la catastrophe, et puis après, c'est terminé, hein, puisque vous le savez, la pratique même des médias, c'est de faire qu'on oublie tout, hein, qu'on devienne tous un peu amnésiques, et puis, comme on dit, on est dans le présent, hein, c'est le présent, donc c'est le moment, le passé, on ne sait pas ce que c'est, il faut avoir oublié, surtout les catastrophes, comme on dit, qui pourraient nous concerner au revenir, et puis envisager, évidemment, l'avenir radieux, l'avenir radio, comme ils disent, ou l'avenir irradié. Voilà, en ce qui concerne donc le nucléaire et ce que je vous disais, donc les prédictions en particulier donc des autorités, le sérieux des autorités françaises. Alors vous vous doutez bien, évidemment, dans le grand Raoult, dans le laïus du sombrero du Premier ministre, pas un mot sur ces questions-là. Hein, évidemment, hein, c'est une langue, comme on dit, de bois, totale, technocratique, enfin bon, anarchique, enfin ce qu'on veut. Et rien n'est évoqué par rapport à ça. Alors, je voulais juste vous dire, donc, je vous parlais, avant de vous donner d'autres informations, si je peux avoir le petit passage par rapport au texte, je vous en reparlerai. Si je le trouve, ben oui, je vais le trouver. Voilà, donc c'était le monde du vendredi 4 janvier. Exactement, donc c'est assez récent. Hein. Nouveau modèle français, il est urgent de restaurer la puissance de l'économie française. Alors, tout ce beau discours, évidemment, a été publié par le journal officiel, hein, vous le savez, le journal officiel du Monde. Alors, là aussi, donc, inventer des modes de production et de consommation plus économiques, hein. Je vous cite quelques passages, voilà. La feuille de route, alors ça, la feuille de route, on voit ça partout, hein, le dernier truc de Moscovici, ministre de l'économie et des finances, il y a pas un seul discours pour essayer de repérer ça, on vous parle de feuille de route, évidemment, c'est le langage militaire, hein. La feuille de route, alors les partenaires sociaux aussi, ça apparaît dedans, évidemment, les jeux de dupes, hein, ça, de nouveaux terminologies, et alors, je vous dis, donc, j'avais repéré ça quand même, pour l'école, alors l'école, il faut un petit truc sur l'école, hein, évidemment, dans un discours comme ça. Une priorité en prêtant une attention toute particulière à l'école primaire, hein, l'école primaire, car les inégalités se jouent dès le plus jeune âge. Alors évidemment, on se doute que le milieu social n'interfère pas, évidemment, là-dedans. Et comme on dit, ce milieu social est déterminant. Vous le savez dans l'histoire de l'école de la République, et en tout cas ce qui est enseigné par l'école de la République, nous n'oublions pas, comme certains l'ont dit, il y a des bouquins là-dessus, ça s'appelle l'école capitaliste ou l'école de la bourgeoisie. Hein, donc c'est l'enseignement de Jules Ferry, même si il est rhabillé chaque année, hein, pour lui donner d'autres formes. Donc dans son idéologie, c'est bien une idéologie que l'on veut instiller justement à chaque petit élève qui passera par l'école, comme on dit, de la République, hein, pour en faire évidemment un citoyen soumis, un citoyen docile, un travailleur accompli quand il pourra pour le MERDEF, hein, quand on pourra, ou sans ça on le foutra sur la ligne Pôle emploi. Et voilà ce que dit Monsieur Hérault. Je vous le dis, hein, quand même, les diafoirus, hein, puisqu'on en parlera tout à l'heure des diafoirus de l'économie, mais enfin ça vous le savez. La France, grâce à son dynamisme démographique, hein, c'est Madame Irma, là, il prévient, dans 20 ans, pourrait être dans une trentaine d'années. Alors là, c'est pas 20 ans, c'est 30 ans. Hein. C'est dans son texte, hein, c'est officiel, trentaine d'années, le pays, écoutez bien, vous avez de la chance, hein, l'Hexagone, le pays le plus peuplé d'Europe. Alors là aussi, hein, vous savez, pour le taux de natalité, pour ce qui est de la France, hein, le record de l'Europe, ben, s'il y a un accident nucléaire, il faut qu'il y ait du monde. Hein, avec une jeunesse pleine d'élan, une population active nombreuse et des seniors riches d'expérience à transmettre, mesurons cette chance exceptionnelle et saisissons-la. Voilà. Voilà l'état des lieux, diagnostic, hein, donc de ces gouvernants et de leurs prévisions météorologiques. Voilà, je vous rappelle donc que vous êtes sur Radio Libertaire. Hein, voilà, on essaie de faire quelques commentaires anarchistes de l'actualité. C'est l'émission Chronique Hebdo. Et puis, bon, on se retrouve dans quelques instants. Je vous rappelle le numéro de téléphone, 01 43 71 89 40.
flèche. S'il s'agit de remonter la France, je vous offre un vaste changement.
Plus de police, plus de patrouille.
Radio Libertaire, Dixieland, sur Radio Libertaire, Chronique Hebdo. Donc c'est l'émission jusqu'à midi. Alors vous avez entendu tout à l'heure le fameux travail famille patrie, hein. Je pense qu'on est en plein dedans, on verra ça tout à l'heure. Je vous lirai peut-être un petit texte justement qui se termine par cette trilogie. Infect, infâme, travail, famille, patrie. Alors on est peut-être dedans, justement, dans la société française, hein, jusqu'au cou. Sauf que ils peuvent pas, enfin à moins de faire des camps de travail, fournir du boulot, hein, à l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'une auditrice nous disait de faire des prévisions. Des prévisions à 30 ans où tout le monde aura un boulot le jour et la nuit. Donc on voit à qui on peut justement à qui on peut ne pas faire confiance, évidemment, puisque vous savez que c'est tout le contraire, qui est donc que de donner des pouvoirs absolus à de tels individus, comme je vous parlais tout à l'heure de ce texte, hein, c'est un texte officiel, hein, c'est un texte officiel de Monsieur Hérault, justement pour ce qui concerne ses prédictions dans sa boule de cristal, donc de ses prévisions, donc Madame Soleil, on disait à une époque. Pour les années, pour dans 30 ans, hein, dans 30 ans, donc je prends peut-être la France 80, 90 millions d'habitants, parce qu'il y en avait un précurseur, il faut pas l'oublier, qui était il y avait le Jean-Louis Debray, toute la famille Debray, mais Michel Debray, hein, vous savez, en particulier celui qui a un des responsables de la Constitution, hein, la française, la cinquième, en particulier, lui aussi avait fait des prévisions, là aussi, de 80, 90 millions pour l'Hexagone. Hein. Donc, avec alors les conséquences, on le dit, hein, bon, peut-être pour des catastrophes, plus on sera nombreux, plus on s'amusera. C'est peut-être leur point de vue. En tout cas, donc le lien. Alors le lien. Je voulais évoquer aussi pour les prévisions, les prédictions, hein, puisque c'est un peu ça. Vous savez, dans l'ensemble des journaux. En tout cas pour les débuts d'année, mais aussi pour les organismes de prévision. Donc je vous parlais du National Intelligence Council, hein, puisque déjà il y a intelligence dedans, qui parlait d'un changement tectonique sur les 20 ans à venir, en particulier par l'explosion des classes moyennes. Alors les classes moyennes, vous savez ce que c'est? Bon, vous savez pas, les classes de la lutte des classes, les pauvres, les exploités, les exploiteurs, ceux qui se trouvent un petit peu au milieu et qui pensent justement se trouver un petit peu au milieu et qui se font bien plus exploiter, hein, qu'exploiteurs, ou ils peuvent être exploiteurs aussi évidemment à l'insu de leur plein gré, sans avoir beaucoup réfléchi, étant donné qu'il y a les récompenses au bout. Et dans cet article, on parle, eh ben, de la concurrence, hein, puisque c'est les États, c'est les pays en concurrence, et donc, vous savez, on parle des BRIC, hein, les BRIC, les fameuses BRIC. Alors, il y avait une époque, on parlait de la dialectique peut-elle casser des BRIC, mais les nouvelles BRIC, alors, vous savez, c'est le Brésil, hein, la Russie, l'Inde, la Chine, et puis pour le S, eh bien, c'est South Africa, c'est l'Afrique du Sud. Alors, ces pays-là, donc émergents en particulier, puis on parle aussi des pays de l'Amérique du Sud, en tout cas. Alors, il y a une personne qui est intervenue, donc Monsieur Hubert Védrine, vous savez, ce Monsieur Hubert Védrine qui a beaucoup sévi aussi, ancien ministre dans le gouvernement Mitterrand, ancien ministre des Affaires étrangères, et qui écrit, alors lui aussi, puisqu'on a besoin d'eux, hein, de leur savoir, hein, vous savez, ils sont plusieurs comme ça, il y a M. Attali, enfin il y en a beaucoup, hein, mais M. Hubert Védrine, et donc c'est familial aussi, c'est héréditaire, quand dans la famille, hein, pour le milieu dans lequel, comme on dit souvent, hein, dites-moi d'où vous venez, dans quel milieu vous êtes, je vous dirai ce que vous deviendrez, à peu de choses près. Et donc pour M. Hubert Védrine, donc, il écrit dans une revue, magazine, États-Unien, foreign policy, hein, si on pouvait dire déjà états-unien, ça serait bien pour l'Amérique, hein, parce qu'on sait où un peu on se situe. Le Monde ne le fait pas encore, enfin, de temps en temps dans des articles. Et là, lui, il nous parle du déclin, donc, qui est un choix. Alors, il parle du déclin de l'Europe, évidemment, la confiance pour les États-Unis en eux-mêmes, en sachant, évidemment, vous doutez que les artifices, là, des dernières minutes, les pirouettes, par rapport au budget en faillite des États-Unis. Alors, là aussi, donc, cet article aborde le développement des classes moyennes, donc ça fait plaisir, hein, par rapport à ça, de dire, voilà, alors ça sera pas des pauvres, les prévisions dans 20 ans, mais dans tous les pays, le développement d'une classe moyenne, puisqu'on parle actuellement à peu près d'un nombre de 450 à 500 millions de Chinois en Chine, évidemment, qui appartiendrait à la classe moyenne. Alors on voit l'Inde aussi qui se développe, hein, vous le savez. Et puis je vous ai dit, hein, l'ensemble de ces pays, la Russie. Alors pour la Russie évidemment, l'avenir radieux, vous savez, l'avenir irradié, la Russie telle qu'elle est, puisque certains, bon, rigolent un peu avec ça, comme le canard enchaîné, un petit jeu de mots pour un comédien, hein, dans toute sa splendeur, français, hein, sans béret, je ne sais pas, qui a reçu un passeport poutinien ou un passeport russe, et qui préfère, on l'a dit, enfin le canard enchaîné nous faisait rire un peu, l'archipel du goulot, hein, plutôt, et oubliant l'archipel du goulag, hein, les camps de travail, hein, par rapport à la belle province du pays russe qu'il a choisi, où ils lui ont proposé de devenir ministre de la culture, hein, donc là-bas, là aussi il y a des camps de travail. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, parce que il y en a encore en Russie, et apparemment ça devrait, puisqu'on parle de la Chine, être supprimé en Chine. Alors, on verra tout à l'heure pourquoi la suppression de ces camps de travail en Chine. Alors là, pour le développement des classes moyennes, je vous disais la Russie. Et la Russie, on nous parle à Moscou, hein, alors c'est pour ça, ça vaut le coup quand même d'y aller, si vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, il y a actuellement 82 galeries commerciales. Alors les galeries marchandes, hein, les galeries commerciales, les centres commerciaux, évidemment c'est l'avenir du genre humain, et même une galerie commerciale de Moscou qui s'appelle Vegas, hein, comme dirait l'autre, c'est Vegas là-bas. Et donc dans cet article-là, elle a remontré aussi les centaines de millions de Russes, hein, qui vont accéder par rapport à l'ensemble de la population, à la classe moyenne, et le développement, évidemment, c'est quand même la bagnole, hein, pour le moment, alors sans se poser la question, évidemment, des limites du pétrole, pour l'ensemble de ces pays, des modes de vie, comme on dit, des modes de survie, ou des modes de modèle unique, un peu auquel il faudrait ressembler, qui se développerait. Et est-ce que la planète pourra supporter tout ça, hein, pourra supporter, c'est pour ça que peut-être autant de frénésie, de folie dans la recherche, puisque pour les États-Unis de pétrole, hein, ils deviendraient bientôt indépendants, autonomes, hein, pour la production de pétrole, le gaz de schiste, hein, vous savez aussi, et là aussi mis en sourdine, soi-disant, dans l'Hexagone, mais là encore, les recherches et les enquêtes et les travaux continuent. Donc, pour ce modèle-là, donc ce modèle de développement, hein, puisque c'est un modèle unique, indépassable, qui vient des États-Unis, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on évoque dans cet article le leading from behind, hein, alors donc, en faire de l'anglais, on va apprendre, c'est-à-dire conduire par derrière, et donc, dans tout un tas d'actions, alors on le rappelle dedans, en particulier pour l'action des États-Unis en Libye, sur l'action militaire, hein, c'est-à-dire les États-Unis sont derrière, et aussi on évoque dans cet article-là, pour ce qui est de la culture, alors évidemment la culture de la télé, hein, de la culture des sitcoms à l'américaine, eh bien, pour ce qui est, on va faire un petit peu cette information, vous avez su sûrement que avec sur YouTube, il y a eu un hit planétaire, donc une pseudo-chanson fabriquée, hein, qui a, paraît-il, battu tous les records de vision, hein, de plus d'un milliard de gens ont été voir ce clip par ce chanteur qui s'appelle sud-coréen qui s'appelle Psy, hein, c'est tout un programme, PSY, Psy. Et le titre Gangnam Style. Et Gangnam, il faut dire, c'est un quartier de Séoul, hein, tout droit sorti d'un sitcom américain, donc on peut dire, ou d'une sitcom, comme vous voulez. Et donc, ce que voulait dire ce journaliste, hein, c'est que bah, là-bas, déjà, dans tout un tas de pays, comme on dit, émergents, hein, des grosses villes comme aussi en Chine, où il y a 30 ou 40 millions d'habitants, l'architecture, la façon de vivre, enfin tout ça, donc c'est un peu à la manière, hein, d'une sitcom à l'américaine. Et on relevait que non seulement le leading from behind des États-Unis, eh bien, c'est-à-dire conduire la planète, hein, conduire l'ensemble des pays par derrière, sur le plan militaire, ce n'est pas uniquement sur le plan militaire, mais c'est, comme on dit, sur le plan culturel. Alors, si on peut appeler ça de la culture, mais c'est comme ça, c'est de la culture industrielle, ou si de l'idéologie, hein, évidemment, cette idéologie capitaliste, hein, qu'on essaie de, ben, d'inoculer à chacun d'entre nous. Alors, ça devrait marcher, puisque apparemment, pour ces pays dits émergents, le modèle de propagande, hein, par rapport à toutes les séries télévisées, en particulier les séries américaines, mais qui sont dupliquées, reproduites, à la fois par tout un tas de pays, hein, font la même chose, que ce soit au Brésil, hein, que ce soit, bon, on voit ici en Europe, la même manière, Allemagne, Espagne, Italie, toutes les sites com sont faits, c'est un produit standard, hein, marque déposée, enfin, qui ressemble, tout ça, ça se ressemble, et évidemment, insidieusement, hein, publicité ou communication, eh bien, c'est par ces images et passe un modèle évidemment de auquel il faudrait ressembler, hein, sans ça on échouerait, on serait un lamentable personnage, on aurait loupé sa vie, et où on serait quelqu'un à rééduquer, hein, puisque je vous parlais tout à l'heure de la rééducation qui ne se ferait plus apparemment en Chine dans les camps de travail, hein, la suppression. Ben alors je ne sais pas, peut-être que eux aussi, certains y vont volontairement, donc la rééducation par rapport à la condamnation sans procès, hein, sans procès en Chine à 4 ans de camp de travail serait supprimée. Voilà encore un grand progrès pour la démocratie, et on pourrait dire que les camps de travail, ben ici, si ça n'existe pas, ben c'est l'inscription, en tout cas la recherche, comme on dit, il n'y a pas le camp de travail, mais il y a Pôle emploi, hein, pour ce qui est de l'Hexagone. Alors on voit bien, au travers de ce qui peut se dessiner, hein, c'est-à-dire au travers de revues qui semblent un petit peu plus sérieuses, entre guillemets, qui font référence, où il y a des chercheurs derrière, où il y a des think tanks, hein, derrière tout ça, eh bien, ce profil, évidemment, un modèle, hein, le monsieur Hérault nous parlait du vrai modèle, véritable modèle ou modèle français, ben, un modèle qui ressemble, hein, comme on dit, c'est le modèle Benetton, je ne sais pas, le modèle classe moyenne, le même modèle, hein, modèle série télévisée, où ça serait, alors là, on pourrait dire, une sorte de mondialisation heureuse, mondialisation heureuse subie, hein, et donc il faudrait aller vers ça. Alors des quelques centaines de millions, quelques milliards de classes moyennes, et puis ceux qui n'y arriveraient pas, alors évidemment, avec toute une bande, toute une équipe de milliardaires, hein, de grands criminels qui piqueraient énormément le pognon, et puis évidemment ceux qui ne suivraient pas, eh bien les pauvres, les miséreux, des centaines de millions, bah, je sais pas, là encore, on a commencé, hein, de toute façon on voit dans les pays occidentaux, eh bien pour eux, ça serait comme ils appellent l'exclusion, donc on les sortirait, ils sortiraient eux-mêmes du modèle, et il pourrait aller aller crever dans la rue. Hein, alors regardons évidemment sur l'ensemble de la planète là aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images, il n'y a pas beaucoup de reportages, il n'y a pas beaucoup d'informations, que ce soit aux États-Unis, la paupérisation, le nombre de pauvres, que ce soit dans énormément de pays évidemment, vous le savez bien puisque les médias officiels, les médias occidentaux, les télévisions et comme on dit la propagande nous parlent pas de ce qui ne va pas, hein, ou en tout cas de nous ne parle pas de ceux qui sont dehors, de ceux qui sont exclus, de ceux qui sont précarisés, de ceux qui sont volés, hein, de ceux qui sont dépouillés, mais justement nous dire là encore une fois, et on le saura après par l'idéologie qu'on veut foutre dans la tête des gens, c'est que leur propre responsabilité est là et qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait, ils n'ont pas fait le nécessaire, ils n'ont pas écouté le monsieur Hérault pour pouvoir un jour accéder donc à ce modèle extraordinaire, ce modèle français ou ce modèle international, comme on dit, ce modèle des classes moyennes où là encore on fait référence évidemment à la marchandise et l'humain on le laisse complètement de côté. Voilà. Alors, vous êtes, je vous dis, sur, vous le savez, Radio Libertaire, c'est Chronique Hebdo, hein, l'heure à peu près, c'est une émission en direct, 11h26, hein, je vous donne à peu près dans les studios de Radio Libertaire. Et alors, on reviendra tout à l'heure sur quelques informations, puis j'ai envie de vous parler justement de Jacques Tardy, hein. Apparemment, Jacques Tardy, sa mauvaise action, sa bonne action, par rapport à cette légion du déshonneur, donc qu'il leur a retourné dans la gueule. Donc, on en parle après quelques petites parties musicales. C'est Chronique Hebdo, numéro du studio 01 43 71 89 40.
Thank you.
Radio Libertaire, voilà, Radio Libertaire. Alors, vous avez écouté quelques petites parties musicales de Dixieland, hein, c'est fameux, ça, c'est des années C'est les années 30, hein, voilà, c'est la belle époque. Non, c'est pas la belle époque, c'était à l'époque où ça se cassait la gueule, hein, vous savez, la fameuse crise de 29, voilà. Alors, petite histoire, oui, je vous disais, pour Jacques Tardy, mais juste avant, préciser quand même, hein, donc, cette information... Un haut responsable, je vous parlais de la Chine tout à l'heure, évoque l'abandon du système de rééducation par le travail. Hein, rééducation par le travail. Alors, comme si le travail n'était pas un système de rééducation. Hein, comme disait Nietzsche, vous le savez, en écoutant cette émission hein, depuis plusieurs années, la référence, évidemment, à ce que disait Friedrich Nietzsche, hein, la meilleure police de la pensée. Hein, le travail, évidemment, le travail contraint, hein, le travail salarié, le travail de domestique, comme on l'a évoqué la semaine dernière. Vous pouvez aller sur le site de Chronique Hebdo et voir ce documentaire de photos, hein, photomontage de Julien Brigaud, en particulier sur les Philippines et sur la domesticité où là-bas donc il y a des écoles qui forment les domestiques hein, avec un diplôme d'État hein, reconnu, des centaines de milliers de femmes, plutôt des femmes qui seront exportées justement dans les pays émergents, peut-être, hein, pour aider à cette émergence et à ce développement de ce modèle de classe moyenne, c'est-à-dire le modèle petit bourgeois, le modèle bourgeois, avec des domestiques. Il hein, faut quand même essayer d'aller vers ça, hein, puisque c'est quand même pas quelque chose qui n'est pas dans l'air, puisque là, on parlait de dizaines de millions, hein, les chiffres sont tombés, je crois que 52 millions, hein, le Bureau international du travail, par rapport à la condition de domestique, enfin d'esclave absolu, hein, puisque l'esclavage moderne, vous le connaissez, c'est celui qu'on vit, le salariat. C'est un esclavage moderne. C'est un esclavage moderne. Alors donc, il y a des degrés, hein, des degrés dans cet esclavage, évidemment, des conditions. Et donc, là aussi, revenir donc le système de rééducation par le travail. Pékin, donc selon les médias chinois, hein, haut responsable chargé des questions juridiques, a annoncé lundi 5 janvier la fin prochaine du système de rééducation par le travail. Alors vous pouvez aller en Chine maintenant, hein, sans les touristes, donc avoir de remords ou difficultés comme aller dans certaines provinces de Russie où il y a des camps de travail. Des avocats et des juristes ont relancé récemment la campagne pour abolir ce système permettant d'envoyer, alors c'est ça, hein, un citoyen, hein, quand on dit citoyen, donc le mec il est citoyen déjà, il ne sait pas, sans procès, dans un camp de travail pour une durée maximale, parce que c'est quand même agréable, bon et généreux, de 4 ans. Hein, voilà. 4 ans, donc, ça c'est... Alors, la suppression, donc, pour ce qui est de cette rééducation par le travail, parce que ça marche autrement, hein, ça marche tellement mieux autrement. Alors, l'éducation par le travail, alors simplement... Bon, je voulais citer ça. La semaine dernière, Jacques avait évoqué sur cette antenne, dans Chronique Hebdo, donc cette question du travail et évoqué justement un auteur, Ivan Illich, hein, qui est mort il y a une dizaine d'années, donc qui a écrit plusieurs bouquins intéressants, particulièrement intéressants. Donc, elle a inventé le terme de convivialité, mais enfin, qui a été complètement détourné. Mais Ivan Illich parlait de la société sans école. Hein, société sans école. Il parlait de la spiritualisation du capitalisme, c'est-à-dire hein, comme une religion, c'est-à-dire de mettre dans la tête de chacun d'entre nous, eh bien, cet imaginaire, entre guillemets, évidemment, cet imaginaire du capitalisme. Et pour ça, il le dit dans ce bouquin, petit bouquin, je vous conseille, Société sans école, eh bien, il comparait les systèmes d'Union soviétique à l'époque et puis le système états-unien, où il disait, c'est à peu près pareil, des deux côtés, c'est 1000 heures, hein, pour les enfants, à peu près sur l'année de cours, de cours, de formation et, comme je dis, d'éducation, de rééducation, d'éducation, puisque là, on ne le rééduque pas encore, par l'éducation pour le travail, hein, pas par le, en même temps par le travail et pour le travail, et bien pour devenir évidemment le citoyen conforme, hein, concitoyen, le travailleur qu'il en veut, hein, exactement, qui voit sa vie à travers la lorgnette, évidemment, du marché de l'emploi, hein, puisqu'on lui dit, on l'oblige, hein, s'il veut pas rentrer là-dedans, eh bien, on le fout dehors, enfin, on le fout dehors, il est même pas rentré, mais on le laissera exclu, comme on dit, l'exclusion, comme ils appellent ça, hein, c'est-à-dire soit devenir précaire, clochardiser sa propre vie, SDF, et puis devenir, justement, des travailleurs, des supposés travailleurs qui auraient pu travailler et dont on ne veut pas, dont on ne veut plus ou dont on ne voudra jamais, hein, pour les mettre en surnuméraire, hein, voilà, il y aura le surnuméraire, la patte humaine, la chair à patron en surnuméraire, et donc il y aura aussi la possibilité, ça va venir, enfin ça vient déjà, donc de piloter par ces machines d'informatique, Internet en particulier, de faire son marché, hein, sur la planète par rapport aux travailleurs les plus conformes, les plus disponibles pour le boulot, et puis laisser les autres à côté crever. Hein, donc c'est un petit peu le paysage, hein, dans lequel nous sommes, et évidemment les gourous ou les politiciens curetons de métier, ben, sont là pour raconter, faire du, comme on dit, puisqu'on parlait des États-Unis, du storytelling, hein, de raconter des histoires, de raconter des contes, de créer justement tout un feuilleton, hein, c'est un peu ça quand même qu'on déroule en permanence dans les médias, et formater, pour imprégner les cervelles, les cerveaux, les esprits de chacun d'entre nous, hein, pour être conforme, hein, le conformisme absolu au système tel qu'il est. Alors, il y en a qui veulent pas, hein, donc vous le savez bien, donc qui résistent, hein, et qui se rebellent, et qui font des pas de côté, et qui veulent pas rentrer dans la machine, hein, qui veulent pas être intégrés, comme on dit, avant d'être désintégrés, dans la société capitaliste, ou la société des démocraties, démocratures, comme disait Castoriadis, dans lesquelles nous sommes, des sociétés bourgeoises, hein, des sociétés d'exploitation, des sociétés de soumission, des sociétés religieuses encore, hein, puisque vous savez bien, la laïcité mon cul, hein, là encore on voit toutes les boutiques religieuses, le poids, hein, l'importance qu'elles ont dans cette société, en particulier quand elles viennent s'occuper d'histoires qui ne les concernent pas, par rapport à la façon de vivre de chacun d'entre nous, de foutre leur nez, hein, dans l'organisation des gens, dans la manière dont ils veulent vivre, dont ils veulent être ensemble. Donc certains leur renvoient ça à la gueule, hein, c'est-à-dire ne pas pour une forme de dignité, de dire, eh bien, je tous vos hochets, toutes vos récompenses, eh bien, je vous les renvoie, hein, je n'en veux pas. Alors, je n'en veux pas, bah, c'est le cas de Tardy, de Jacques Tardy. Alors, vous savez que Jacques Tardy est venu souvent dans les studios de Radio Libertaire. Donc, on pourrait dire compagnon de route, compagnon de libertaire, en tout cas, pour Jacques Tardy, et Le Canard Enchaîné. Alors, je vous le disais tout à l'heure, un certain nombre de gens le verront. Moi, j'ai entendu ça quand même sur France des Infos, hein, donc on écoutait, c'était jeudi dernier, Jacques Tardy, et donc il avait dit, entre autres, enfin je vais vous lire quelques lignes de l'article du Canard Enchaîné, mais là, sur France Info, il avait dit, de toute façon, moi, je veux pas de ce truc-là. Et puis, alors parler de sa liberté de penser, mais de refuser, je vous lirai ce que dit le Canard Enchaîné, hein, donc les hochets de tout pouvoir, et disait, mon père, justement, il évoque dans une dernière bande dessinée, mais ça c'est pas pour la guerre de 14-18, c'est pour l'autre, hein, donc la deuxième, comme on dit, guerre mondiale, où son père a participé, donc il l'évoque dans une bande dessinée, et il disait son père avait reçu la Croix de Guerre, et la Croix de Guerre, il en avait fait un porte-clés. Alors il disait, voyez comment on considère les médailles dans la famille, hein. Voilà ce qu'on en fait, enfin on s'en fout. Et donc, soit on les balance, soit on les détourne. Alors, la croix et la manière, bah, c'est le canard enchaîné de cette semaine, le dernier canard enchaîné. Et alors, rappelez quand même que Maurice Maréchal, le fondateur du canard enchaîné, ils étaient en 1915, hein, rappel au moment de la boucherie, donc en pleine boucherie, organisée évidemment par les puissances, les possédants, c'est-à-dire par les très riches, hein, pour envoyer peur, évidemment, d'une révolution, des mouvements à l'époque des révoltes, des révolutions sociales. Eh bien, rien de mieux qu'exacerber le nationalisme et puis d'aller faire se casser la gueule les gens, hein, qui n'y sont absolument pour rien. Donc, en 1915, Maurice Maréchal à son collaborateur d'époque, hein, Pierre Cize, il justifiait ainsi son licenciement. Apparemment, il avait été viré. Il ne suffit pas de refuser la Légion d'honneur, encore fallait-il ne pas la mériter. Alors, le canard nous dit, mais justement, Jacques Tardy n'a rien mérité du tout, et pourtant, la ministre de la Culture, c'est-à-dire Filippetti, hein, a voulu le bombarder chevalier de la Légion d'honneur. Alors, c'est curieux quand même, hein, c'est vrai qu'il faut jamais avoir lu Jacques Tardy, ses albums, en particulier sur la guerre de 14-18, hein, la guerre des tranchées, sa série de Nestor Burma, mais surtout sa trilogie, hein, je vous recommande, sur la Commune avec Jean Vautrin. Hein, et puis, alors remarquable aussi, je l'ai regardé, hein, je l'ai, l'anthologie de la connerie militariste d'expression française. Hein, anthologie de la connerie militariste d'expression française en 3 volumes de Lucien Seroux. Donc on a sûrement parlé de ces bouquins dans l'émission Civis Pacem, hein, je vous la recommande aussi, c'est le jeudi à 18h. Et donc c'est aujourd'hui à 18h, dont il a signé les trois couvertures de ce bouquin, pour avoir, quelle drôle d'idée, l'idée de lui attribuer ce hochet et sans l'avertir. Alors, voilà ce qu'a dit Tardy, je ne veux rien recevoir, ni du pouvoir actuel, ni d'aucun autre pouvoir politique, quel qu'il soit, on n'est pas forcément content d'être reconnu par des gens qu'on n'estime pas. Hein. C'est vrai qu'on ne vous estime pas, je pense, là, à Tardy, pour tous ces ministres, pour ce gouvernement. Hein. Il ne faut plus de gouvernement, évidemment. Je voulais parler tout à l'heure d'un gouvernement gangster. C'est pas autre chose. Il n'y a pas de droite ou de gauche, ou de milieu, ou de centre, ou de vert, ou de gris. C'est gangster et il faut plus de gouvernement, selon la chanson du tout. Alors, rejoignant ainsi la longue et glorieuse légion de ceux... Alors, il nous parle dans le canard enchaîné de ceux qui ont renvoyé à l'envoyeur, hein, et rappelle quand même que pour les auditeurs, enfin, vous le savez, inventé par le Napoléon. Alors là aussi, alors il parle de pompeux cornichons de Napoléon, alors on pourrait dire le dictateur, hein, sanguinaire, torsionnaire, massacreur, hein, donc celui qui a écrasé évidemment la révolution, et puis tout ce qu'on lui doit, la misère, c'est les lycées, je vous parlais tout à l'heure des écoles casernes, hein, entre autres les polytechniciens, enfin tout ça, toute l'organisation, le code civil, code Napoléon, enfin toute la société française, hein, structurée, organisée. Par ce dictateur, hein, voilà, on n'en est pas vraiment sorti, on est quand même en plein dedans. Hein, c'est pas simplement, comme dit le canard enchaîné, un pompeux cornichon. C'est une affaire sérieuse. Par rapport à ça, là, il rappelle dans le canard enchaîné ceux qui ont refusé, Courbet. Hein, voilà, évidemment, je vous recommande, Maupassant. On parle Sartre, Camus et Daumier, évidemment. Daumier, on peut pas. Et puis les plus récents, on parlait de Jacques Bouvresse. Donc, une journaliste du Monde, Françoise Fressoz. Et puis aussi, une dernièrement, c'était l'année dernière, je crois, une chercheuse à l'INSERM, Annie Thébault-Meny, donc il a refusé parce qu'elle, elle disait, par rapport, on voit la recherche médicale, enfin en tout cas la recherche scientifique, où va le pognon, hein, il va le pognon dans le militaire, là vous savez, et donc elle était totalement en désaccord, donc elle leur a dit, c'est pas la peine, on vous renvoie cette saleté. Voilà, ce que vous pouvez dire, donc évidemment on est entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec Tardy. Alors c'est vrai que ceux qui les refuseniks, hein, pour reprendre un terme russe, les refuseniks, eh bien ceux qui refusent, il y en a pas beaucoup. Et dans ceux qui ont refusé, évidemment, ben il y a tout le troupeau de tous ceux qui l'ont accepté, hein, le troupeau qui marche évidemment, qui marche au pas, qui accepte tous les colifichets et de la reconnaissance de la République, la République qui nous appelle, évidemment. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce refus et engager, évidemment, comme on dit, chacun à ne pas accepter quoi que ce soit, évidemment, de ses pouvoirs, de tous ses pouvoirs absolus, de tous ses pouvoirs corrompus. Alors je vous disais tout à l'heure, la transformation, hein, je vous rappelais, à Nantes, hein, l'ancien palais de justice qui est devenu un hôtel de luxe, hein, pour ça, donc la chambre maximum autour de 400 euros, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à... Alors là aussi, il y a un arrangement avec l'État, hein, pour garder le bail assez longtemps, donc des investissements de 30 millions d'euros, hein, c'est ça. Et puis, bon, vous savez, les suppressions ou les réaménagements de certaines prisons, mais c'est, comme on a dit, l'ensemble, la suppression des prisons. Et puis, je voulais vous dire, donc, on essaiera d'aller un petit peu terminer l'émission un tout petit peu avant midi, pour laisser la place à l'émission de Rimes et de Notes, hein, anciennement le présent têtu, pour qu'il puisse s'installer. Et alors je voulais vous dire aussi, donc, la possibilité, je vous ai dit, on en avait parlé tout à l'heure, d'aller, si vous avez la machine internet, donc d'aller sur le blog de Chronique Hebdo, hein, je vous recommande, parce qu'il y a des dessins, hein, de Fred Maurice, qui est un auditeur attentif, je crois, de Chronique Hebdo. Et puis vous verrez aussi tout un tas d'émissions de référence, là, hein, aussi, et peut-être à réécouter, en particulier celle d'il y a 15 jours, avec Pierre Carle et Julien Brigaud. Alors, les blogs, eh bien, je vous conseille aussi d'aller sur le blog de Floréal, hein, faites blog de Floréal, par rapport à l'ensemble de ces textes, de ces billets. Là aussi, sur les derniers avatars, on reviendra pas du comédien qui préfère l'archipel du goulot. Et aussi, on vous le signale souvent, Claude Guillon qui est venu plusieurs fois dans cette émission et plusieurs fois sur Radio Libertaire, et en particulier dans Chronique Hebdo. Donc pour la société terroriste, hein, un de ses précédents ouvrages, enfin les textes, en tout cas de loi, de la manière dont on essaie de mettre en place, de créer, vous savez, pour l'affaire de Tarnac, de constituer un ennemi, hein, quand on parle pas, comme on l'a vu dernièrement, un auditeur nous le rappelait tout à l'heure sur Orange, après l'escapade de jeunes femmes à Notre-Dame-des-Landes, Notre-Dame-des-Luttes, hein, où certains, sur, je crois, Orange, ont appelé à ce que c'était la responsabilité, si certaines personnes s'étaient un peu égarées, de la responsabilité des anarchistes, et que la meilleure façon de les punir, c'était de leur retirer le droit de vote, hein, ou de leur empêcher l'accès à certaines professions. Voilà, de professions comme la magistrature, par exemple. Hein. Ça, c'est pour montrer, évidemment, la connaissance subtile, ou les réactions subtiles de certains individus par rapport à la pensée anarchiste, de vouloir, pour sanctionner, donc, de soi-disant agissements anarchistes sur certaines personnes, de supprimer, évidemment, d'empêcher les gens d'aller voter. Alors, sur le blog de Claude Guillon, bah, je vais terminer comme ça, hein, je voulais vous lire un petit texte. Donc vous pouvez y aller, regarder, et le petit texte, ça a été envoyé, c'est à propos évidemment, vous savez bien, autour de ce fameux, ce qu'on appelle le mariage pour tous, hein, nous on a dit déjà dans cette émission, le mariage pour personne, et en tout cas des droits pour tous, surtout, avant tout, et ceux qui débattent autour de ce projet, et donc sur le blog de Claude Guillon, il a reçu un courriel. Voilà, et donc je voulais vous le lire. Alors, voilà ce courriel. « Je ne veux pas me marier. Signer un contrat devant la République pour reproduire fidèlement le couple et la famille, ces institutions qui ont toujours servi à la reproduction de l'ordre existant, est une idée qui me répugne. La norme est trop étroite. Je ne me laisserai pas dicter quel comportement. » Je ne suivrai pas le troupeau docilement de ceux qui emménagent des vies, dans une vie, ceux qui emménagent dans une vie de crédit, dans une vie à crédit, hein, mort à crédit. Bien rangé entre le boulot et le foyer, mes désirs ne sont pas solubles dans la platitude de vos relations. Alors, je ne suis pas à la recherche d'une vie de bohème dans un ghetto pour gays. Je ne veux pas de vos rapports truqués, où l'on se considère comme des marchandises. Je m'en branle de la reconnaissance de l'État. Je n'en ai que foutre de vos lois, de vos arrangements démagogues, de vos coming out, de vos célébrités, de votre bienséance et de votre bonne pensée. Je ne me plierai pas à vos injonctions qui me poussent à m'intégrer toujours plus à cette société. L'hypocrisie n'est guère moins nauséabonde que les serments des réacs de tous bords et cubénis de toute religion, évidemment. Hein. Alors là, on les a vus, là, ils sont venus reçus à l'Élysée. Donc, ils vont aller, paraît-il, défiler, là, manifester. Donc, toutes les boutiques infectes, plus infectes les unes que les autres. Alors, la position des anarchistes, hein, c'est pas la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est la suppression de l'Église et de l'État. Et je termine, et faisant les louanges de la démocratie occidentale et de ses valeurs, vous ne faites que les rejoindre, je vous en parlais tout à l'heure, dans un remake du Travail, Famille, Patrie, ce qui fait qu'on a entendu tout à l'heure la chanson de Gogol Ier, Travail, Famille, Patrie, et je vous signale quand même aux éditeurs qu'il y a quelques années, eh bien, il avait assuré à la Mutualité un gala de soutien à Radio Libertaire. Voilà, Radio Libertaire, Chronique Hebdo, c'est terminé, eh bien, pile poil, hein, 58, et je vous dis à bientôt, voilà, et restez à l'écoute de Radio Libertaire, l'émission suivante de Rimes et de Notes. Salut !